sur Radio Méga, dans notre émission Underscore, au pays du soleil levant, le roi Mao porte son masque, mais j'arrête avec mes chinoiseries car on va encore parler d'ordinateur.
Bonjour Mémimane.
Bonjour Cécile, bonjour Doudou.
Coucou Cécile, coucou Mémimane, coucou Maître Belle.
Bonjour Maître Belle.
Bonjour à tous.
Et oui, cette semaine, on vous retrouve pour une édition spéciale où, effectivement, ça va parler de chinoiserie, mais non de Mao, de M-A-O.
Et oui, parce que aujourd'hui, c'est la fête du bruit amplifié, de la musique.
Oui.
Et on vous épargne cette année les multiples concerts dans la rue.
Qu'est-ce que ça va être tranquille, on va pouvoir dormir.
Tu es content, Mémimane, de pouvoir dormir cette nuit.
Ah, je suis content.
C'est bien.
Mais en fait, on est dimanche matin, alors on va supposer que c'était comme ça vendredi soir.
Voilà. Un petit peu d'actu.
Allez, on passe à l'actu.
Un peu d'actu.
Alors, le Conseil constitutionnel censure la loi Avia. La Quadrature du Net s'en réjouit. Plus de 80% de la loi a été déclarée contraire à la Constitution, dont la disposition qui prévoyait un délai de 24 heures pour censurer les contenus haineux. C'est pas faute d'avoir prévenu les parlementaires, mais bon.
Le Conseil constitutionnel supprime le délit de détention de vidéos terroristes. Ouf, on va pouvoir garder nos vidéos de chatons mignons.
Le Conseil d'État rejette le recours dirigé contre la sanction de 50 millions d'euros infligée à Google par la CNIL. Google avait contesté l'amende, mais le Conseil d'État a rejeté sa demande. Le Conseil d'État confirme par une décision du 19 juin 2020 que la société n'a pas délivré une information suffisamment claire et transparente aux utilisateurs du système d'exploitation Android et ne les a pas mis à même de donner un consentement libre et éclairé au traitement de leurs données personnelles aux fins de personnalisation des annonces publicitaires. Le Conseil d'État estime par ailleurs que la sanction de 50 millions d'euros n'est pas disproportionnée.
Le futur de Peertube se dessine. De juin à novembre 2020, Framasoft va développer de nombreuses améliorations et fonctionnalités pour Peertube. Quatre étapes principales, chacune avec son planning et son coût, qui mènent vers l'ajout de la diffusion de vidéos en direct et en peer-to-peer pour la version 3 de Peertube.
GitHub et de nombreux projets veulent se débarrasser de des références raciales et esclavagistes. Des termes comme maître, esclaves ou liste noire, liste blanche devront donc être remplacés par des termes neutres.
L'appli Stop Covid collecte plus d'informations que prévu. Ben mince alors. Sachant que l'appli a été lancée alors que même la CNIL ne savait pas comment elle fonctionnait.
C'est génial.
La Norvège suspend son équivalent de Stop Covid et supprime toutes les données récoltées après avoir jugé son impact sur la vie privée bien trop important en regard des services rendus.
Des critiques même de la CNIL sur l'hébergement par Microsoft des données de Health Data Hub. C'est pas souverain ça?
La CNIL appelle à la vigilance sur les caméras dites intelligence et les caméras thermiques, tout comme la Quadrature du Net, mais peut-être qu'on va l'écouter elle.
Pour Flash, ce sera vraiment fini le 31 décembre prochain. Adobe confirme l'arrêt du support de Flash pour la fin de l'année.
Alors, on va fêter ça.
Alors, pour la petite histoire, je ne me rappelle plus le nom, mais en fait, Flash existera toujours. C'est juste qu'ils ont changé de nom et que tous ceux qui travaillent avec Flash dans l'animation, les dessinateurs qui font des courts-métrages, tout ça, pourront continuer d'utiliser Flash, mais sous un autre nom. Alors, voilà, il ne sera pas dans les navigateurs, mais en tant qu'outil
d'animation.
On pourra toujours s'en servir.
Le régulateur des télécoms veut en finir avec les plats de nouilles dans les raccordements optiques. Les opérateurs vont peut-être enfin apprendre à ranger leurs armoires. Heureusement, ça reste des cas rares, mais parfois c'est juste un gros fatras.
Quant devrait virer un quart de son effectif. Il y en a qui vont devoir traverser la rue ou demander à Quant de leur trouver un job.
L'ANSSI lance une revue annuelle des papiers numériques. Cette revue novatrice propose des dossiers thématiques mêlant actualité de la cybersécurité en France, contenu prospectif et témoignages de partenaires.
C'est tout pour l'actu. On fait une petite pause.
Une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour notre sujet du jour proposé par Nadbel, la MAO. Connection, Happy Life.
Ah, parce c'est happy. Toujours... Qui c'est qui planote surtout... au clavier?
Oh, pardon.
Ah. On t'entend.
Tu as été repéré. Alors, nous allons passer au sujet du jour. La MAO, l'évolution sur ordinateur. On t'écoute, Matt Bell, pour ton sujet.
De nos jours, au home studio, on peut réaliser une chanson à la maison. Du vrai télétravail, mais en musique. On appelle ça de la MAO, musique assistée par ordinateur. Voici son histoire. En 1951, le premier enregistrement de musique par ordinateur. Croyez-le ou non, les ordinateurs étaient utilisés pour faire de la musique il y a 57 ans. L'enregistrement le plus ancien connu est celui d'un ordinateur Ferranti Marchi de l'université de Manchester. Il jouait God Save the Queen, Baba Black Sheep et In the Moon. La révolution avait commencé. On écoute un petit extrait.
C'est God Save the Queen, ça?
Ah ouais.
Ouais, ouais, c'est God Save the Queen.
En 1957, Max Matthews écrit Music. Matthews est souvent cité comme l'un des plus grands pionniers de l'informatique musicale. Et l'une des premières réalisations a été d'écrire le programme Music. Alors qu'il était au Bell's Labs aux États-Unis, cela a été utilisé pour créer une pièce de 17 secondes qui a été réalisée à New York sur un ordinateur IBM 704. On en écoute un extrait. Thank you.
me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage. But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two.
En fait, les Daft Punk, ils ont copié, hein?
Ouais, c'est pas loin de ça, c'est pas loin de ça. Ouais, ouais, c'est une évolution. En 1957, c'est une belle révolution, ça. C'est... Mm. En 1982, Commodore 64 est lancé. Beaucoup de grands travaux de développement ont été réalisés dans les années 60 et 70, mais lorsque le Commodore a lancé le C64, que la création de la musique informatique à domicile a vraiment commencé. Il est remarquable pour l'inclusion de sa puce AudioSit, qui permettait aux utilisateurs de créer de la musique en utilisant trois énormes canaux de synthèse. En fait, le son SID distinctif est toujours populaire aujourd'hui, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez télécharger des émulateurs Commodore 64 pour votre Mac ou PC.
Ah, il y a même des cartes PCI où tu peux mettre des puces SID dans un PC.
Ouais. Et même des synthétiseurs avec des puces SID 12. En 83, à la naissance du MIDI pour l'interface numérique des instruments de musique, l'introduction du MIDI était l'une des importances cruciales pour les fabricants de musique de haute technologie. Ce nouveau protocole permet aux ordinateurs synthé et autres matériels de communiquer entre eux et est toujours largement utilisé aujourd'hui. Sans MIDI, l'histoire de l'informatique musicale serait en effet très différente. En 85, Atari lance l'Atari ST. Ouais. Nous utilisons peut-être tous des PC ou des Mac ces jours-ci, mais dans les années 80, l'Atari ST était la machine que chaque musicien informatique voulait posséder. Le fils Atari. Du PDG d'Atari a eu l'idée géniale de l'équiper de ports MIDI, ce qui en fait la plateforme idéale pour ceux qui cherchent à mettre du matériel externe sur le contrôle de leur ordinateur. En 89, Steinberg sort Cubase, on en a déjà parlé. Steinberg avait déjà reconnu avec le séquenceur Pro 24, largement utilisé, mais Cubase, c'est le logiciel qui a fait son nom. La première version a introduit le concept de la page d'arrangement, avec sa liste verticale de pistes et sa chronologie horizontale. Une conception qui est rapidement devenue l'interface standard pour tous les séquenceurs développés commercialement. Dans le début des années 90, l'enregistrement audio arrive. Après avoir utilisé auparavant pour séquencer des équipements externes via MIDI, les ordinateurs ont enfin commencé à devenir des appareils d'enregistrement audio à part entière. Steinberg a sorti Cubase Audio pour Mac en 91, avec une version encore meilleure pour Atari Falcon en 93. En 91, il y a eu la fameuse carte son Sound Blaster Pro. La toute première carte de son blaster de Creative Labs a connu un grand succès dès 89. C'est la version Pro qui a ajouté un enregistrement stéréo à 44,1 kHz. Ce n'était que 8 bits, cependant, l'enregistrement 16 bits devait attendre le lancement de la Sound Blaster 6 un an plus tard. Ceci théoriquement a permis à l'utilisateur d'un ordinateur à domicile d'enregistrer en qualité CD.
Ouais, enfin, on rappelle vite le disque dur, hein.
Oui, là, ça, c'est vrai que ça faisait des mégas, voire des centaines de mégas sur quelques heures.
97. Bah c'est 10 mégaoctets par minute.
Oui.
Et à l'époque, on n'avait pas des gros disques durs, puisque à cette époque-là, le disque dur, il faisait centaines de mégaoctets. Donc ouais.
Moi, j'avais un 180 mégas. Ouais.
Donc, un CD audio d'une heure, c'est qui fait 700 mégas, ça passait pas.
Non. En 97, Technologie Virtual Studio, avec le lancement du Cubase VST de Steinberg, il est devenu possible non seulement d'enregistrer plusieurs pistes audio sur un ordinateur, mais aussi de les traiter avec des effets de plugin. Auparavant, du matériel externe était requis. D'autres développeurs de logiciels ont rapidement commencé à équiper leurs produits de fonctionnalités similaires. En 99, l'engagement, le premier instrument plugin. L'engagement de Steinberg envers l'innovation a de nouveau été démontré que la sortie de Cubase 3.7 nous a donné la possibilité de brancher des instruments logiciels directement dans la station audio numérique, quelque chose que nous tenons pour acquis de nos jours et est devenu avec néon un synthé de style analogique très basique. Un torrent d'instruments commerciaux et gratuits a rapidement suivi. En 2000, le lancement de la première version de Reason, ça a déjà parlé, devenue une des applications les plus réussies de tous les temps. La façon dont Reason a été présentée à un rack virtuel d'équipement de studio reconnaissable a rendu même ceux qui étaient sceptiques. Quant au potentiel de la musique sur ordinateur production, s'asseoir et prendre note, du coup, tout pouvait se faire en une seule application. En 2001, sur l'Odyssée de non, Ableton Solo Life vise à briser le moule lors de sa sortie et rapidement fait comprendre aux utilisateurs et aux développeurs qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la musique par ordinateur. Il ressemble à aucun autre logiciel sur le marché et est maintenant utilisé par des musiciens de toutes sortes à travers le monde. Et le futur, une autre évolution ? Point d'interrogation, les développeurs de logiciels de musique continuent à repousser les limites. Celemonai a développé une nouvelle technologie qui est le Direct Note Access, qui permet d'éditer des notes individuelles dans des fichiers audio mixtes. Pendant ce temps, de nouvelles applications musicales sont lancées pour les appareils portables tels que l'iPhone d'Apple ou la DS de Nintendo. L'avenir s'annonce radieux. On va prendre ici un exemple dans lequel on va utiliser Celemonai. Alors là, il y a 5 exemples. Le premier exemple, c'est un original. Dans le deuxième exemple, on va voir ce qu'on appelle des voix démasquées. C'est-à-dire que lorsqu'on l'enregistre avec un micro, on entend uniquement la voix, mais pas tout ce qui en sort, l'air, tout l'univers ambiant autour de la voix. Vous allez voir, c'est pas mal. Puis on a le changement d'auteur de voix fait par Celemonai, la voix aiguë plus un peu soul à la fin pour rendre un effet, et une multiplication de voix plus un allongement de voix de cet enregistrement, de cet exemple.
Maker, ma création. Ouais, d'accord. 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 Est-ce que les participants ont donné leur accord?
Non, mais c'est une surprise. Et voilà, que vous soyez foutriquet ou un cluasme, si vous deviez attraper un virus, c'est celui de la musique, ainsi serait la chanson de la vie.
Ouais, oui, bah, c'est vrai que moi je trouve ça formidable, effectivement, on a de nouvelles manières d'appréhender la musique, notamment avec les outils qu'Ableton peut sortir régulièrement, et aussi le fait de pouvoir faire de la musique de manière différente avec des tablettes, des téléphones, ça apporte vraiment une nouvelle dimension à la musique, et c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Quoi.
Ou des fruits avec le maki-maki, dont on a déjà aussi parlé.
Aussi.
Bah, y a plein de façons de faire, ouais.
Oui, tout à fait. On fait une quel qu'en soit, oui, mais de toute façon, quelle que soit la musique, faites-en, hein, c'est toujours la bonne occasion d'en faire.
Eh bien, on va en écouter, et puis on se retrouve tout de suite après.
À tout de suite. Thank you. Belfast, donc voilà, vous avez un petit peu plané, puis vous pourrez replaner encore en écoutant de la musique. Vous avez tous nos liens sur AAA.fr.
Belfast de Orbital, c'est ça?
C'est ça.
Ou c'est l'inverse, on ne sait jamais trop, mais... Passons à l'agenda?
C'est ça, rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
On a
quoi?
La Nova Party, c'est ce week-end en fait, donc c'est encore aujourd'hui, dépêchez-vous si vous voulez regarder ça sur Twitch, c'est en ligne, hein. Donc du 19 au 21 juin, donc jusqu'à aujourd'hui.
Et initiation au dessin 2D, Inkscape, apprendre à dessiner avec Inkscape, c'est 25 euros, 5 participants max, au 8 Fab Lab le 23 juin de 16h à 18h, toujours 8 rue Courcomer à Cray.
Coding Dojo 11. Le Coding Dojo, c'est l'occasion de remettre en question ses habitudes et ses certitudes en écrivant du code dans un contexte qui nous permet de progresser. C'est aussi l'occasion d'explorer des nouveaux langages ou de redécouvrir des langages qu'on n'utilise plus au quotidien. Que tu sois développeur depuis peu de temps ou un ancien du métier, tu y trouveras certainement des choses à apprendre et à partager. Pour cette 11e édition, nous essaierons de réaliser le Kata Theater proposé par Emily Bash. Événement en ligne sur inscription le mardi 23 juin de 21h15 à 23h.
Pancake Party, une démo party portugaise en ligne le mercredi 24 juin.
C'est à moi ? Ah oui. Mm-hmm. Présentation de la monnaie libre, la June. Donc présentation de la monnaie libre pour les futurs membres ou personnes voulant comprendre la TRM ou la June. Pour ouvrir un compte, venez avec votre ordinateur ou votre tablette. C'est mercredi 24 juin de 18h à 20h au café L'Art des Choix de Chauny, 34 rue de Chauny à Bourg-les-Valences. C'est en face de la cartoucherie.
Animation sur les sciences et l'électronique à la roue. Chaque samedi de l'été, il y aura des animations ouvertes au public sur différents termes. Le samedi 27, ce sera la science et électronique. Puis le 4 juillet, collage et bricolage. Le 11 juillet, la roue sera fermée au public. Nous reprenons le 18 avec des activités de cuisine. Enfin, le 25, nous douceurons. Le 27 juin, le samedi, la roue, espace Aureuil, 2 rue Bruyère, à Chabeuil.
Premier salon virtuel de généalogie le samedi 27 juin. Vous en avez parlé la dernière fois. Donc le premier salon virtuel de généalogie, ce sera le samedi 27 juin prochain de 9h à 18h. L'accès à ce salon virtuel sera gratuit avec la participation de l'équipe d'Ancestris.
Alors, Pass the Salt 2020, la conférence sur la sécurité logicielle se déroulera en ligne cette année, du 29 juin au 1er juillet.
Et puis, du lien des liens, des tas de choses à faire encore. Vous avez la traduction des articles de Dev Small, paru à l'époque dans STMAG, toujours intéressant historiquement.
C'était pas déjà traduit à l'époque ?
Si. Mais on peut la trouver en ligne, oui, c'est
d'accord.
Juste qu'on la trouve en ligne maintenant. Découvrez le bureau de Linus Torvalds en vidéo.
Une distribution GNU Linux spécialement conçue pour les fans de rétro, PsychOS. Attention, le site web pique les yeux, j'ouvre ça de suite.
C'est du rétro, hein.
Ma belle, hein.
Pour ceux qui s'intéressent à l'électronique, la chaîne YouTube Syrup est un must. Voire aussi son site perso.
Nos amis québécois préféreront probablement la chaîne Electro Bidouilleur.
Et un petit tour dans les archives parfaitement préservées du CERN pour comprendre comment les circuits électroniques analogiques étaient créés dans les années 70. C'est juste magnifique.
Une série de tutoriels pour débuter en 3D sur Blender.
Une série de pictogrammes rectifiés... les notions habituelles de l'informatique, comme le cloud, qui n'est que l'ordinateur d'un autre, donc représenté avec un autre ordinateur au lieu du nébuleux nuage.
Une conférence de Paris Web sur la langue des signes française.
Et enfin, Chiptune for Autism, qui sort un cinquième album avec plein d'artistes de chiptune. Et les bénéfices sont toujours reversés à des associations pour l'autisme.
Waouh! Allez, astrologique, je frôle la boule de cristal. Gamer, la VR, Ça voulait dire qu'il faut les deux yeux.
Si, cette mine. Franchement, toutes ces solutions infoniagiques, ça vaut vraiment pas un cloud.
Merde. Don't worry, be swappy.
Le Pascal Sevran, c'est la variante de Pascal où on remplace begin par A et hand par on est bien Tintin.
Eh oui. Ah, Print Hélène, coucou, on est bien Tintin.
Ah oui.
Mais je te laisse faire la suivante.
Ah oui. DevOps, c'est un pays qui est le mien.
Musicien, le 21 juin, je suis musicalement vôtre.
Évidemment. Merci, Matt Beck, pour ton sujet. Et merci, puis on se retrouve bientôt.
Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Vous pourrez retrouver tous les liens sur notre blog www.aa.fr. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur Radio Méga. À bientôt.
Ciao, ciao.
Salut.